des émotions un peu mixtes, avec la joie de voir Philippe être baptisé et en même temps, cette nuit, mon oncle est décédé. C'était le mari de ma tante et il était très malade. Il a eu de longs problèmes de cœur, un AVC, une infection, etc. Et finalement, il est parti cette nuit. Et c'est toujours quelque chose de voir ces personnes qui meurent. La mort n'arrête pas. Elle n'est jamais en vacances. Elle fait son travail inéluctablement. Les gens meurent, qu'ils soient riches, pauvres, jeunes, vieux. Tous doivent mourir, la Bible le dit, parce que tous ont péché aussi, hein. Mais combien sont prêts à passer de l'autre côté? On remet toujours, on dit c'est pas pour moi, ça n'arrive qu'aux autres, et puis ça vous arrive à vous. Et là, on se dit, oh, mais les médecins vont y arriver, on va s'en sortir, je vais prier, je vais m'en sortir. Mais il y a un jour, forcément, où on passe de l'autre côté. Et pour être sauvé, il n'y a qu'un seul moyen, dit la Bible, hein. C'est de mettre sa foi dans le Sauveur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, un seul médiateur entre nous et Dieu. Notre frère nous l'a rappelé, Jésus-Christ. Lui, il est passé au travers du voile de la mort et il est revenu. Il est ressuscité. Il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Est-ce que vous avez cette espérance? Est-ce que vous en êtes sûr? Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ce passage magnifique et merveilleux, ces paroles de Jésus en Matthieu chapitre 5, qu'on appelle les béatitudes. Parce qu'en latin, béatus, ça veut dire le bonheur. Matthieu chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne des Oliviers, et après, la montagne, pardon, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et il dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Il faut s'imaginer cette foule qui suivait Jésus, c'était au début de son ministère, et ils le suivent partout, ils veulent entendre ce qu'il a à dire parce qu'il parle comme nul autre homme n'a jamais parlé. Il ne parle pas comme les rabbins qu'ils avaient l'habitude d'entendre, comme les prophètes ou comme les hommes politiques ou qui que je sache. Il parlait comme Dieu parle à notre cœur. Et cette foule le suit et Jésus monte sur une colline, en fait, probablement au bord d'un lac, du grand lac de Galilée. Et il se met en haut et comme ça, tout le monde peut regarder et l'entendre avec sa voix puissante. Et il parle du royaume des cieux. Il dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il va prononcer sept paroles. Et la huitième, il revient au royaume des cieux. Il dit, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. En effet, ceux qui sont décrits dans ce sermon-là, heureux, 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 apparemment sont souvent méprisés et persécutés. Les pauvres en esprit ne sont pas bien vus. Les humbles de cœur ne sont pas bien vus. Ceux qui ont faim et soif de justice ne sont pas bien vus. En général, ils sont de la chair à canon. C'est eux qui ont persécuté parce que les violents, les méchants, si on peut dire, hein, les gens cruels sont aux commandes et ils terrorisent tous les autres. En général, ces personnes-là aussi manquent de confiance en elles. Quand on est humble, on n'est pas quelqu'un qui se met en avant, qui dit « Oui, moi, j'ai peur de rien, moi, t'inquiète pas. » Non, quand on est humble, on a tendance justement à manquer un peu de confiance en soi. Mais Jésus les encourage en disant « Vous êtes heureux si vous êtes comme ça. Le royaume des cieux est pour vous. Et même pas pour vous, il est à vous. » Qu'est-ce qui prime dans notre monde, dans nos sociétés? Ce qui prime, c'est l'apparence. L'apparence, la gloire, même si elle est passagère, on est prêt tout pour une seconde de gloire. Il y a même des gens qui tuent, hein, des psychopathes, ils tuent des gens pour avoir une seconde de gloire et qu'on parle d'eux dans les journaux, sauf qu'ils se sont suicidés, donc ils ne seront jamais. Mais n'est-ce pas la folie furieuse? L'intérêt personnel, voilà ce qui gouverne aussi. Moi d'abord, l'individualisme. Et même dans les religions, on privilégie l'apparence sur la vraie foi, le cœur. Et Jésus va répondre à ça. Qu'est-ce qu'on privilégie dans les religions? L'apparat, la pompe, le bruit, le rite, la foule. Ah, s'il y a du monde, si ça fait du bruit, s'il y a un apparat, s'il y a tout un décorum, on dit ça, c'est une vraie religion. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il est là, assis dans l'herbe, hein, sur cette colline, avec une foule de pauvres gens. Les Galiléens qui le suivaient n'étaient pas des grands docteurs, etc. Hein. Il y avait des patrons pêcheurs, des pauvres gens, des veuves, des prostituées. Et il leur dit, heureux, parce que le royaume des cieux est à vous. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur. Alors dans quel camp sommes-nous? Est-ce que le royaume des cieux est pour nous? Est-ce que nous allons vivre dans ce royaume? Ici, c'est le roi qui parle. Hein. Jésus se pose en tant que roi quelque part. Parce qu'il est le Messie. Le Messie va régner sur la terre. Lorsqu'il va revenir établir la justice, il va être le roi de toute la terre. Et il dit, voilà comment ça va se passer dans mon royaume. Voilà les valeurs de mon royaume. Voilà les principes de mon royaume. Qu'est-ce qu'on met en avant? Les pauvres en esprit. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Hein, on a l'habitude en français, les pauvres en esprit, on dit les débiles mentaux. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Les débiles mentaux, mais ce n'est pas de cela qu'il parle, bien qu'ils soient aussi dedans. Parce que ceux qui n'ont pas toute l'intelligence ou l'intellect qu'ont la moyenne des gens, ils ont souvent une sensibilité, un cœur plus proche de Dieu, plus proche de la pureté, que ceux qui ont tout dans l'intellect, hein, mais un cœur sec, un cœur étroit. Alors, le royaume des cieux. Ici, ce n'est pas un plan de salut qu'il donne. Hein. Il ne dit pas pour être sauvé, il faut être pauvre en esprit ou il faut avoir un cœur pur, etc. Mais il est vrai que quand on est vraiment avec Dieu, on aura ces caractéristiques-là. Les pauvres en esprit, d'abord. Le mot qu'il utilise, c'est les mendiants en esprit, les nécessiteux en esprit bien sûr, hein. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur manque, ceux qui reconnaissent qu'ils sont faillibles, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas tout, qu'ils n'ont pas tout compris, qu'ils ne peuvent pas tout résoudre dans la vie, ils sont mendiants en esprit, ils disent « j'ai besoin d'aide ». Voilà. Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'une béquille dans la vie. Je me débrouille tout seul. Je réussis, j'ai monté mon affaire. Voilà, je gagne bien ma vie, j'ai des employés. Attention, j'ai travaillé dur. Hein. Moi, je travaille toute la semaine. Moi, ce n'est pas 35 heures. Hein. Moi, c'est 55 heures. Hein. Et moi, j'ai besoin de personne. C'est assez glorifié dans notre société, des personnes comme ça, les self-made men, hein. Les gens qui se battent et on dit bravo. Et c'est vrai que c'est mieux que quelqu'un qui dort toute la journée avec une bouteille de rouge à la main. Ceci étant dit, nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin d'un berger, d'un seigneur, d'un sauveur. Quand j'étais athée, j'avoue que c'était très dur pour moi d'imaginer que j'avais besoin d'un Dieu qui est au-dessus de moi. Je voulais aucune autorité, c'est moi, je suis mon propre Dieu. Mais avec les échecs répétés avec le péché qui commençait à me rendre esclave, avec le mal que je faisais alors que j'essayais de faire du bien, je me suis rendu compte que j'étais incapable. Et c'est là que j'ai commencé à devenir petit à petit mendiant spirituel, à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cet univers qui a une réponse? Face à la mort, face à la maladie, face à la souffrance, face à l'injustice, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Dieu, et il est venu en la personne de Jésus-Christ pour les mendiants en esprit. Les affligés, heureux les affligés, ceux qui souffrent, souffrent de voir l'injustice, souffrent aussi de leur propre faute, de leur propre péché, mais qui en souffrent, qui ne sont pas satisfaits, ceux qui sont affligés par la situation du monde, qui sont affligés par la misère qui règne, par la mort qui règne. On est si facilement blasé. Ceux qui travaillent dans les morgues, par exemple, ou dans qui s'occupent dans les... Pardon. Avec la police, les légistes, les médecins légistes, merci. Pour eux, ils voient des cadavres. Pour eux, c'est des numéros. Hein, c'est, oui, on a rentré le numéro 12. Bon, voilà. Pour les familles, c'est leurs parents, leur mère, leur oncle, leur cousin. Et pour eux, c'est un numéro. Et ils sont obligés presque de s'endurcir un petit peu parce qu'ils voient la mort continuellement et les morts continuellement. Mais ce n'est pas bon de s'endurcir. Dieu veut qu'on soit affligé, qu'on ne devienne pas cynique en disant « Oh, regarde, ils sont tous pareils, ces politiciens, regarde le monde, est comme ci, comme ça. » Mais ça, c'est du cynisme. Les disciples de Christ sont affligés. Ils souffrent, ils prient. Et on l'a vu dans vos témoignages et vos partages. Vous êtes comme ça, hein, vous priez. Vous ne laissez pas les choses s'en aller. Vous battez dans la prière. On peut dire que les souffrances des hommes sont à 99% dues aux hommes. Ce n'est pas Dieu qui est la cause de nos souffrances. C'est nous. Nous nous faisons souffrir nous-mêmes. Heureux les humbles de cœur. Et le mot là qu'il utilise, c'est les doux, les gens qui sont doux. C'est un mot qu'il utilise là, qu'on utilisait pour les chevaux qui avaient été domptés. Vous savez qu'un cheval, naturellement, est sauvage. Si on le prend dans la nature, il est sauvage. Vous ne pouvez rien faire d'un cheval sauvage. Même vous le touchez déjà, il cabre, il s'en va. Alors, n'imaginez même pas mettre une selle ou des rênes ou quoi que ce soit sur un cheval sauvage. Il faut d'abord qu'il soit, on appelle ça, brisé. C'est-à-dire qu'il accepte que l'homme soit son maître. Et quand il est brisé, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez du moment que vous ne lui faites pas peur, hein, que vous n'êtes pas violent et cruel. Mais quand il est brisé, il est comme ça, il est doux, c'est le mot là. Il est humble de cœur. Et nous, hein, la Bible dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Hein. Nous, par rapport à Dieu, on a besoin de ça aussi. On est fougueux, on est sauvage. Je suis libre, je fais ce qu'il me plaît. Et puis, ce qui me plaît, c'est pas beau. Franchement, c'est pas très beau. Et ça fait souffrir les autres, ceux qui nous entourent en général. Et on a besoin aussi de ce brisement. Ce n'est pas un brisement dans le sens cassé, dans le sens écrasé. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit doux par rapport à lui. Dieu veut qu'on accepte qu'il est notre Créateur, notre Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et là, il dit faim et soif, ça veut dire c'est quelque chose de fort. C'est quelqu'un qui veut la justice. Alors, qui est contre la justice? C'est rare, quand même. En parole, tout le monde est pour la justice, n'est-ce pas? Oui, mais dans les faits, il n'y a pas grand monde qui est vraiment pour la justice jusqu'au bout. Ceux qui aiment la justice et la vérité plus qu'eux-mêmes, c'est-à-dire, si je suis en faute, j'accepte la justice. Si je me trompe, j'accepte de reconnaître mon erreur. J'accepte de dire la vérité est plus forte que moi. Que font les hommes avec la justice? Ils ont tendance à faire des lois qui les arrangent. Ils modifient les lois au fur et à mesure. Vous savez qu'il y a des lois, les députés travaillent énormément même si les rangs ont l'air vides de temps en temps, mais ils travaillent beaucoup, ils font des lois, des lois, des lois, des lois, ils n'arrêtent pas de faire des lois et des lois. Pourquoi? Parce que la société évolue, il faut faire changer les lois. Mais la loi de Dieu, la justice de Dieu, la vérité ne change pas, c'est toujours la même. Est-ce que j'ai faim et soif de la justice ou est-ce que je préfère mon confort? Quand on a faim et soif de la justice, qu'est-ce qu'on réalise le premier coup? Je ne suis pas juste. C'est ça la première chose qu'on réalise. Je ne suis pas juste. J'ai besoin d'être justifié, d'être rendu juste. Qui va me rendre juste? Comment vais-je devenir juste? La parole de Dieu répond. Hein? Celui qui croit en Jésus-Christ, il est justifié, il est déclaré juste, il est pardonné, acquitté, et il reçoit la justice de Christ dans sa vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux, verset 7. Ce sont ceux qui laissent une chance aux autres, les miséricordieux. Ceux qui ne sont pas impitoyables. Quelqu'un de miséricordieux, c'est tellement beau, hein? Quelqu'un d'impitoyable, c'est la majorité des gens, hein? On ne laisse rien passer. Ce sont ceux qui ont compassion, qui se mettent à la place des autres. Ça, c'est un exercice très difficile, se mettre à la place de l'autre. On se met bien à sa propre place. On dit, mais oui, mais moi, quand même. Mais maintenant, mets-toi à la place de l'autre. Si tu étais dans sa situation, qu'est-ce que tu ferais? Et là, des fois, ça change notre point de vue. On juge facilement, hein? Oui, je ne comprends pas, celui-là. Oui, alors maintenant, mets-toi à sa place. Ah oui, effectivement. Quand on se met à sa place, on voit les choses différemment. Ça fait partie de l'amour de Dieu, de la compassion. S'il y a quelqu'un qui s'est mis à notre place, c'est vraiment le Seigneur Jésus. Il était dans la gloire du ciel. Et il s'est mis à la place des hommes, il est devenu un homme. Il aurait pu dire du haut du ciel, mais regarde-moi ce ramassis d'incrédules, d'impurs. Ils ne veulent rien comprendre, ils sont bornés. Mais vite, débarrassons-nous de cette racaille. Et Dieu aurait dû nettoyer cette terre. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Il s'est mis à notre place. Non seulement en pensée, mais en acte, il est devenu un homme. Il s'est incarné en la personne de Jésus pour vivre une vie d'homme. Avec une grande différence, c'est que lui, il n'a jamais péché. Il a été tenté comme nous, dit la Bible, mais il n'a jamais commis un seul péché, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Il a été parfait. Mais il pouvait comprendre nos tentations. Il pouvait comprendre notre aveuglement, notre endurcissement. Il avait 12 disciples. Est-ce que vous croyez que les 12 étaient meilleurs que les autres? Souvent, ils comprenaient rien à rien. Jésus leur disait un truc. Ils disaient, quoi? Comment? Jésus dit, je suis le pain de vie. Il dit, non, mais on n'a plus de pain. Qu'est-ce qui se passe? On manque de... Ils étaient toujours dans le matériel et Jésus était dans le spirituel et ils n'arrivaient pas à suivre. C'est seulement après la Pentecôte qu'avec le don du Saint-Esprit, tout est devenu beaucoup plus clair. Tout ce qu'ils avaient entendu est revenu, ils ont compris. Et le Seigneur a aimé ses disciples. Tous les disciples, mais les 12 en particulier. Il a même aimé Judas. Quand Judas est venu le trahir, il a dit, comment il l'a appelé? Mon ami. Mon ami. Ce n'était pas son ami, mais Jésus, lui, l'aimait. L'homme riche qui ne voulait rien savoir de Jésus, qui disait « Moi, je suis juste depuis ma jeunesse, je fais tout ce que la loi demande, je n'ai pas besoin de rien. » Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus l'aima. Pourtant, cet homme riche, il est parti sans demander son reste, sans chercher la vérité ni la justice. Et puis, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Vous remarquerez qu'à chaque phrase, il conclut différemment. Il dit, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ensuite, « Les affligés, ils seront consolés. Les humbles, ils hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Les miséricordieux, ils seront sauvés. Ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau et de merveilleux. Le cœur pur. C'est encore le contraire de l'apparence. Dieu et Jésus-Christ attendent de nous un cœur pur, pas une apparence religieuse, pas une apparence d'être bien sous tout rapport, n'est-ce pas? Oui, c'est quelqu'un de correct. Non, il veut qu'on ait un cœur pur. Comment avoir le cœur pur? Ça, c'est la chose la plus difficile qui soit sur la terre. Avoir un cœur pur, des pensées pures, une conscience pure. Comment on fait ça? Il y en a qui font de la méditation transcendantale toute la journée. Ils méditent et méditent et méditent. Et en fait, dans la méditation, on essaie de vider le mal, d'enlever le mal. Donc d'enlever toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais comportements. On se vide, on se vide, on se vide. Mais au bout d'un moment, on est vraiment vide. C'est lié un peu au yoga aussi. Il y a cette technique de vide. C'est très à la mode, la méditation. C'est pratiqué dans énormément de choses. C'est en train d'envahir même. Et ça prépare le monde à accueillir les pensées de l'antéchrist. Parce que quand vous faites le vide, il y a des esprits qui viennent. Alors que les paroles de Jésus nous demandent d'être remplis. Si vous lisez le Nouveau Testament, il dit « Soyez remplis de Dieu, remplis de la parole de Dieu, remplis de louanges, remplis de reconnaissance. » Il faut être rempli, pas vide. Mais comment avoir un cœur pur? Un cœur pur, ce n'est pas juste une absence de mal. Un cœur pur, c'est aimer le bien, faire le bien, être pur dans ses actions. Ça, c'est une autre histoire. Là, il faut un miracle. Il faut vraiment un miracle. Et il faut que Dieu nous fasse naître de nouveau. La nouvelle naissance, la naissance d'en haut, pour qu'on ait un cœur pur. Il remet le compteur à zéro, il met la conscience à zéro comme si on était un bébé. Son sang précieux qui a coulé à la croix nous lave dans les tréfonds de notre être et on est déclaré pur, sans péché, pardonné de nos péchés. Vous me dites, mais alors on ne pêche plus? Si, malheureusement, on chute encore. Mais on est déclaré pur et juste aux yeux de Dieu, couvert par le sang de Christ. Et il nous a donné un nouveau cœur, une nouvelle nature qu'il appelle l'esprit et qui aime la pureté et qui agit avec pureté. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le disciple de Jésus est un faiseur de paix. Il cherche toujours la paix et non la guerre. Il cherche le bien et non le mal. Il ne se venge pas. Arrivé à ce stade, on pourrait se dire, comme on dit vulgairement aujourd'hui, est-ce que c'est le monde des bisounours? C'est-à-dire, comment voulez-vous vivre ce caractère-là sur la terre, d'être toujours en paix, d'être toujours doux, toujours humble, avec les gens autour de vous, avec ce monde complètement corrompu et violent? Non, il faut être dur, il faut être comme les autres, il faut s'en sortir. Non, non, non. Jésus a dit, ceux qui ont qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, enfant de Dieu, on doit agir comme ça. Il dit plus tard, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce qu'on doit viser, d'être comme Dieu. La perfection est là. Il y a 7 paroles principales plus la 8e qui refait le tour, mais ce n'est pas pour rien. C'est la perfection du royaume de Dieu. Et nous sommes dans le royaume de Dieu si nous sommes disciples de Jésus. Et nous devons avoir ce caractère de paix. Vous me dites, mais quand quelqu'un vous agresse, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez avec la paix. Vous ne vous vengez pas. Bien sûr, si quelqu'un saute sur ma famille pour les agresser, je vais les défendre. Je vais les protéger. Je ne vais pas rester là en disant « Seigneur, allez en paix, mon cher, continuez. » Voilà. Il y a évidemment le bon sens. Mais si quelqu'un nous veut du mal, plutôt que de chercher des procès ou des batailles ou de le faire chuter, « Tiens, tu vas en baver. » Non, le chrétien, il reste dans la paix. C'est un faiseur de paix. Il se reconnaît, on reconnaît les fils de Dieu à leur paix. C'est comme ça qu'on reconnaît les fils de Dieu. Et Jésus a dit plus tard dans Jean, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous me dites, j'aimerais que les gens voient ce que c'est les chrétiens. Ben, vas-y. L'amour et la paix. Si tu manifestes ces grâces de Dieu, ils verront qui est Dieu, ce qu'est Dieu. Est-ce que vous préférez une personne paisible ou une personne vindicative, agressive, violente, toujours sur les nerfs, en train d'exploser? Qu'est-ce que vous préférez pour vivre, pour travailler? Quelqu'un de paisible. Ben oui. Et tout le monde est comme ça. Et donc, un chrétien qui apporte la paix, il va donner envie de connaître le Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Toutes ces caractéristiques, je l'ai dit au début, ne sont pas mises en valeur, ne sont pas glorifiées. Ça fait partie du royaume de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est sous l'empire du diable, hein, du prince de ce monde. Et donc, il y a deux peuples et un combat, là. Hein. Et il y a la pensée unique qui se forme de plus en plus dans les esprits grâce aux médias, qui dit aux gens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent aimer, ce qu'ils doivent détester. Et heureusement, il y a encore des gens qui essaient de lutter contre ça, mais dans l'ensemble, il y a une pensée relativement unique. Et si vous regardez les infos de 20 heures, par exemple, vous allez être bien dans la pensée unique parce que c'est des infos très calibrées. D'ailleurs, tous les journaux ont exactement les mêmes infos, quasiment dans le même ordre. Mais le chrétien n'est pas dans la pensée unique, il est dans la pensée de Christ, dans la pensée de la Bible. Et ces paroles de Christ, nous devons les pratiquer. Et il dit, il y a un bonheur pour tous ces gens. Heureux, ça revient à chaque fois. Heureux, heureux, heureux. On est heureux quand on vit comme ça, quand on ressemble au Seigneur. Bien sûr, on est peut-être mal vu, on est peut-être critiqué. Ah oui, tu nous parles toujours de ton Jésus, de ta Bible, de ton royaume. Ah oui, mais toi, t'es naïf, tu ne te rends pas compte. Regarde, dans ce monde, il faut être comme si. Les chrétiens, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est tous des abrutis. Et la Bible, c'est fini, c'est du... Laissez dire, laissez faire tout ça. Laissez dire. Vivez comme Christ. Et ces personnes-là qui méprisent, comme je l'ai fait, hein, je l'ai fait le premier, j'ai méprisé le christianisme, la Bible, Jésus-Christ, les chrétiens. Mais il y a un moment, lorsque vous avez faim et soif de justice, lorsque vous êtes affligé, lorsque vous cherchez la paix, vous allez voir que les vrais chrétiens ont la réponse, qui est Jésus-Christ. Et c'est à nous d'être toujours fidèles au Seigneur dans ces choses-là. Il dit « Vous êtes le sel de la terre », verset 13. C'est pas pour rien qu'il dit ça juste après. Hein. « Vous êtes le sel de la terre ». C'est à vous de donner du goût, à nous les disciples du Seigneur, si je suis vraiment un disciple. Et la question se pose maintenant, est-ce que je suis vraiment un disciple? Ou est-ce que je suis dans une religion? Souvent, on nous dit, dans votre religion baptiste, est-ce qu'on a le droit de... Je dis, désolé, ce n'est pas une religion. C'est une foi basée sur les Écritures, une foi en Jésus-Christ. On s'appelle baptiste parce qu'il y a une histoire derrière, mais on est la religion chrétienne. On est la religion de Christ. On n'est pas dans les rites, on n'est pas dans les commandements, fais ci, fais ça. On est dans le cœur. Est-ce que mon cœur est pur? Et si votre cœur ce matin n'est pas pur, vous avez la conscience lourde, c'est-à-dire votre conscience vous accuse en permanence. Vous essayez de donner le change, de dire « non, ça va, il y a pire », mais chaque fois que vous arrêtez, que vous êtes tout seul, ça revient. Cette accusation de Dieu. Eh bien, Dieu veut vous donner un cœur pur. Dieu veut vous pardonner, vous laver. C'est pour ça qu'il est venu en la personne de Christ. C'est qu'il est mort sur cette croix. Infâme, c'est pour payer toute notre dette. On comprend l'idée de payer hein, un prix. Et je pense qu'on peut bien comprendre que le prix que Christ a payé était très, très élevé. Que le Fils unique de Dieu soit cloué sur un poteau, une croix, au vu de tout le monde, à moitié nu, avec des traces de fouet, hein, du sang partout, une couronne d'épines sur la tête, peut-être les yeux pochés parce qu'on l'avait frappé, hein. On l'avait giflé à plusieurs reprises. Voilà le prix qu'il a payé. Ce prix, ce n'est pas rien, c'est le prix du Fils de Dieu, de sa mort, de sa vie. Et ça paye tout, ça rachète tous nos péchés. Ne pensez pas qu'il y a des péchés qui sont trop durs. Non, ça rachète tous vos péchés. Il y a des meurtriers qui ont été sauvés par le Seigneur. Ils avaient tué des gens, beaucoup de gens des fois. Ils se sont repentis, tournés vers Christ et ils ont été pardonnés. Bien sûr, la justice humaine a dû les condamner, hein? Mais devant Dieu, ils sont pardonnés. Vous aussi, vous pouvez être pardonnés ce matin. Ne ratez pas cette occasion, car la mort est au coin de la rue. Il y a cette légende orientale, hein, de cet homme qui avait peur de la mort. Et il imaginait comme, vous savez, cet être avec une faux, là, avec une capuche tout en noir et la faux. Et c'était en Orient, donc c'était facile d'imaginer ça. Et il commençait à avoir des douleurs dans le côté gauche et il se disait, je me demande si j'ai un certain âge, je me demande si la mort n'approche pas. Et un jour, il est au marché, il fait ses courses, il achète ses légumes. Et qu'est-ce qu'il voit s'approcher de lui à 10 mètres? La mort. Avec sa capuche, sa faux, il se dit, ça y est, c'est mon tour. Eh bien, non, je refuse. Et il prend, il jette toutes ses affaires et il court, comme un dératé. Mais il court, il court, il court, il court, il court. Il court et il sort de la ville et c'est dans le désert, il fait chaud. Et il court, il est fou, il regarde derrière si la mort ne le suit pas. Et il court et finalement, il est tellement épuisé par la chaleur qu'il a une crise cardiaque. Et juste avant de mourir, la mort est à ses pieds. Elle lui dit, mais pourquoi tu cours? Il dit, mais je voulais t'échapper au marché. Mais il dit, je ne suis pas venu te chercher toi au marché. Au marché, j'étais venu chercher quelqu'un d'autre. Et toi, tu es venu à mes pieds, à mes devants, hein, en courant comme un fou. C'est une légende orientale, mais on n'échappe pas à son destin et à la mort. Par contre, on peut être sauvé. On peut avoir la vie éternelle. On peut être relié à Dieu pour l'éternité, faire partie du royaume de Dieu pour l'éternité. Ça commence maintenant et ça va durer l'éternité. Et c'est merveilleux de faire partie de ce royaume où règne la justice, la vérité et la paix et l'amour. Prions. Je voudrais encore vous laisser cette chance à la fin de cette réunion de vous tourner vers le Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais vous sauver, ce n'est pas une église, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vous appelle, il est vivant, il est ressuscité, il vous appelle ce matin à vous repentir, à reconnaître vos fautes, à être un mendiant spirituel, à dire oui, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, je n'arrive pas à tout, je ne maîtrise pas tout. Et j'ai besoin du pardon de Dieu, j'ai besoin du salut. Dites-lui avec vos mots, avec vos pensées, il vous entend. Vous pouvez même crier vers lui, car le Seigneur répond aux cris de ceux qui sont en détresse. Et mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. Car il a tout payé. Il est le seul qui soit parfait, digne de foi. Ces paroles qu'il a prononcées là dans Matthieu, il les a vécues lui-même. Il s'est laissé crucifier. Il ne s'est pas défendu. Il a toujours prêché la justice et il a vécu une vie juste. Il est le seul vrai Dieu est le seul homme parfait. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés, dit la Bible. Notre Père, nous voulons te remercier encore une fois de ce privilège que tu nous as donné de pouvoir devenir tes enfants. Vraiment, c'est une grâce incroyable que tu nous aies aimés au point de nous adopter dans ta famille, de nous justifier, de nous acquitter de toutes nos fautes. Merci Seigneur pour ce pardon. Merci d'avoir payé si cher ce prix. Seigneur, nous voulons vivre les valeurs du royaume de Dieu. Nous voulons les vivre dans l'Église, mais aussi chez nous à la maison, à notre travail, dans la société. Nous voulons être des citoyens qui manifeste les valeurs de Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous contre l'influence, justement, du monde et de ses pensées ennemies de Dieu. Donne-nous vraiment de manifester la justice et l'amour de Christ, la paix, la miséricorde, la douceur. Merci, Seigneur, de ce que parmi nous, nous sommes d'une même famille, tu es notre Père et nous pouvons nous aimer les uns les autres de l'amour de Dieu. Je prie que tu ajoutes beaucoup, Seigneur, dans ton royaume. Nous prions pour la France, Seigneur, où il y a si peu de vrais croyants qui te connaissent personnellement, qui sont nés de nouveau, et où il y a si peu qui sont prêts à écouter même. Seigneur, touche les cœurs, aide-nous à être des bons témoins, à être le sel de la terre. Et je le prie au nom de Jésus-Christ.